contre ceux dont on ne parle pas. Le bleu appelle le sang pour toutes ces âmes où un contrôle signifie humiliation. Raciste dans les actes et les remarques, arbitraire dans l'arrestation. Élève des chats dans des cages, donne pas sinon sort des lions. Ils ont voulu parquer les pauvres en dehors des villes, donne pas si dans les tests son rêve aussi de guerre civile. Ma t'inquiète plus, pas moins de demander à papa. T'étonne pas si quand on peut, on vient prendre ce qu'on n'a pas. Plus de sens, 10 jours d'émeute que 10 ans de manifestation. T'étonne pas si m'en bat les yeux de tes élections. Ta putain de politique, soit hors de pute, soit ta crave, la mienne est un cocktail qui va faire un gros flash. T'étonnes pas, t'étonnes pas, si ça détonne en bas de chez toi. T'étonnes pas, si ça détonne en bas de chez toi. Moi aussi j'ai vu la lumière au bout du tunnel. C'était les caves d'un coq sur un collègue, fait tourner la bouteille. T'étonnes pas si ça pète, si on a plus rien à perdre. Souvent je rêve que je fume un keuf, alors que je plastique la cave. T'étonnes pas si on n'en peut plus, t'attendre encore. Que le flingue à leur ceinture finisse sur la tempe de ses porcs. Sarko s'indigne, les juges seraient trop cléments. À beau poche, t'en parles en faute, beaucoup trop de proches.
Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suze ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se met à rêver d'un nouvel univers. Mais toi tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles, pour les mendiants qui prient les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève. Et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Oakland, de Cusco ou Montreux. 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale. Avec autour du
je passe tous les ans quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerait on sait quoi ces gars-là, ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve. Mais pour chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? au petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe. Je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mangeteurs. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz. Nous sommes le lundi 3 juillet, il est 18h passées d'une minute et nous allons commencer l'émission Les Mangeterres, une émission d'écologie sociale, une émission qui fait le tour de l'actualité, un tour d'actualité, parce qu'on n'aura jamais fait le tour, autour des articles, notamment de presse, parus le mois précédent. Et pour démarrer cette émission, eh bien, je souhaitais quand même revenir avec un communiqué d'Oxfam du 26 juin sur la notion d'inflation des dividendes, puisque alors Oxfam avait fait un premier travail de mesure des écarts de rémunération entre PDG et salaire moyen dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, et donc Oxfam France a fait une deuxième partie d'étude sur le partage des richesses au sein des grandes entreprises, et ce second rapport qui s'appelle l'inflation des dividendes étudie le poids des versements aux actionnaires dans le partage de la valeur des entreprises. Eh bien, ce rapport montre que les bénéfices générés sont de plus en plus captés par les actionnaires au détriment des salariés, puisque entre 2011 et 2021, les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices en dividendes. Alors que pendant le même temps, la dépense par salarié n'a augmenté que de 22% et les versements donc aux actionnaires ont augmenté de 57%. Donc on voit que sur 10 années, eh bien, ce qui progresse le plus, bien sûr, c'est le versement aux actionnaires qui atteignent, donc on l'a dit, 71% de la richesse redistribuée sous forme de dividendes. Donc ça, c'est les entreprises, les 100 plus grandes entreprises cotées. Entre 2020 et 2021, les paiements aux actionnaires ont bondi de 31 milliards d'euros, soit presque autant que l'ensemble de la masse salariale des entreprises du top 100, qui représente à peu près 37 milliards d'euros entre 2020 et 2021. En 10 ans, par exemple, Engie, on en reparlera tout à l'heure, a accumulé 784 millions de pertes, alors que pendant la même période, les sommes versées aux actionnaires s'élèvent à 23,6 milliards d'euros. On voit là toute l'absurdité, évidemment, de cette logique capitaliste. Et en 2019, 45% des dividendes et rachats d'actions versés aux actionnaires par les 100 plus grandes entreprises cotées en bourse auraient suffi à couvrir leurs besoins en investissement dans la transformation écologique. Les actionnaires sont plus que jamais les grands gagnants du partage de la valeur au sein des grandes entreprises. Donc on voit 71% des bénéfices en dividendes qui ont été distribués. Et les paiements donc ont bondi de 31 milliards d'euros depuis entre 2020 et 2021. Et dans les entreprises les plus généreuses avec les actionnaires, on retrouve en première position Total Energy, qui a versé 61 milliards d'euros de dividendes en 10 ans. Ensuite, Sanofi, 53 milliards d'euros. Et AXA, avec 27 milliards d'euros. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... intéressant de constater, c'est que la satisfaction des actionnaires à tout prix va parfois plus loin et opère même lorsque la santé financière de l'entreprise ne le permet pas. Donc on l'a vu tout à l'heure, certaines grandes entreprises n'hésitent en effet pas à cramer leurs caisses et à s'appauvrir pour payer leurs actionnaires. Donc c'est le cas d'Engie, hein, on l'a vu, 784 millions de pertes en 10 ans, alors qu'ils ont versé 23,6 milliards d'euros en dividendes aux actionnaires. L'étude pointe le fait que l'État agit en garde-fou et protège les grandes entreprises. En effet, via les aides publiques aux grandes entreprises, l'État surprotège les multinationales en s'assurant qu'elles ne puissent faire faillite. Depuis 2010, le montant moyen des aides de l'État donc atteint 8,5% du PIB par an, soit près de 200 milliards d'euros, sans aucune exigence en contrepartie en matière de responsabilité sociale ou environnementale. De beaux cadeaux de la part de l'État, note l'étude d'Oxfam, et donc finalement indirectement en partie des contribuables français qui assurent aux actionnaires de ne plus prendre de risques en investissant dans ces grandes entreprises. Cette course à la satisfaction à tout prix des actionnaires empêche les grandes entreprises d'investir dans leur transformation écologique ou d'augmenter les salaires. Oxfam a calculé qu'en 2019, 45% des dividendes des rachats d'actions versés aux actionnaires par les 100 plus grandes entreprises auraient suffi à couvrir leurs besoins en investissement dans la transformation écologique. Voilà, donc pour la communication d'Oxfam par rapport à cette étude, eh bien ça se termine par un certain nombre de revendications. Mais qui pour, évidemment, sur cette antenne, pour nous, sont des propositions réformistes. En effet, donc dans les propositions, il y a utiliser la fiscalité comme outil de redistribution et réaligner la fiscalité du capital sur celle du travail, encadrer la part des bénéfices versés aux actionnaires, conditionner les aides publiques au plafonnement des dividendes, conditionner les aides publiques aux entreprises, aux investissements dans la transition, réformer la gouvernance, etc. Donc voilà, on n'est pas sur des propositions que nous avons de reprise en main de la gestion directe des entreprises, de l'autogestion, et bien tout simplement pour sortir finalement cette logique bien de l'argent qui est une fin en lui-même, hein, le fait de verser des dividendes, quelle que soit finalement la finalité sociale de ce qui est produit, quels que soient les dégâts environnementaux. On le voit bien, ce qui importe c'est de verser des dividendes aux actionnaires, et là on dit finalement que l'État ne peut rien, en tout cas c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, hein, et on voit que l'État est donc complice de ce système, et que voilà, en plus il y a dans ces montants de l'argent parti en fumée pour de la consommation individuelle ou de la spéculation, bien sûr, alors que bien la finalité de la production, c'est aussi arriver à respecter le cadre non négociable dans lequel nous nous trouvons, qui est celui de l'environnement, selon un schéma très différent du développement durable, avec ces trois anneaux olympiques où il faut trouver un équilibre entre les trois. Non, le schéma de la décroissance est celui dont nous parlons sur cette antenne. Eh bien, c'est bien que la sphère économique est enchâssée dans la sphère sociale, qui elle-même est enchâssée dans la sphère environnementale, et il n'y a rien de négociable sur la préservation de l'environnement, comme voudraient nous le faire croire les capitalistes avec leur capitalisme vert. Voilà. Ça méritait d'être dit quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, que les caisses sont vides, on voit qu'elles ne sont pas vides pour tout le monde. Et puis, alors, on pourrait développer assez longtemps, je vais simplement me contenter de l'évoquer, même si le sujet est évidemment très très inquiétant, mais que en parallèle, on peut se dire aussi que bien la résistance multiforme, non centralisée justement sur cette affaire des soulèvements de la terre, ce fédéralisme qui est un mode d'organisation que nous défendons, et bien cette organisation-là, fédéraliste, va permettre très probablement de ne pas se laisser enfermer, c'est le cas de le dire, par la répression étatique, puisque bah, vous l'avez vu, hein, alors là je reprends le communiqué de la Confédération paysanne qui dit qu'il soutient les soulèvements de la terre, puisque ce mouvement a contribué en l'espace de 2 ans à visibiliser davantage la nécessité vitale de protéger la terre des activités humaines destructrices, de préserver le vivant et de lutter contre l'agro-industrie, qui sont des objectifs que partage donc la Confédération paysanne avec ce mouvement, qui rappelle qu'elle a été côte à côte dans plusieurs actions d'envergure pour défendre la terre et l'eau, et que tout le monde est déterminé à se battre pour la répartition équitable de ces biens communs, donc ces communs. Face à l'urgence sociale et climatique que le monde agricole vit de plein fouet, la Confédération paysanne s'est logiquement engagée, comme elle l'a fait tout au long de son histoire, à œuvrer collectivement avec des militants citoyens pour protéger les terres agricoles, nos droits sociaux et déployer l'indispensable transition agroécologique de notre agriculture. Dès qu'un mouvement écologique s'attaque aux intérêts de l'agro-industrie, dès qu'un mouvement social lutte pour préserver ses conquis, voilà, on ne dit pas des acquis mais des conquis, hein, parce que ce sont vraiment des conquêtes sociales, je ferme la parenthèse. Il est aujourd'hui systématiquement, donc ce mouvement écologique ou social, il est systématiquement criminalisé et durement réprimé. Ces derniers mois, la violence d'État apparaît davantage à nu en s'abattant sur les militants du mouvement social et écologique. Le vrai visage du néolibéralisme se révèle en effet brutalement lorsque des intérêts capitalistes puissants sont menacés par un légitime désir de justice sociale et climatique de plus en plus prégnant parmi la jeunesse. La menace de dissolution des soulèvements de la terre, donc qui a été mise en exécution le 21 juin, est une attaque directe, nous dit la Confédération paysanne, à la liberté d'expression, d'opinion, d'association, de manifestation, aux droits humains, aux droits à l'eau et à l'alimentation et aux droits de l'environnement. Que ce soit par les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ou les experts de l'ONU, les autorités françaises sont unanimement décrites comme engagées dans une grave dérive antidémocratique. Dissolution ou non, les questions soulevées par les mouvements sociaux et écologiques ne disparaîtront pas par enchantement. Les problèmes auxquels nous faisons face restent entiers. Dérèglement climatique, baisse continue du nombre de paysans, effondrement de la biodiversité. Dissoudre l'opposition est un mirage inconséquent de la part du gouvernement. Les décideurs politiques doivent dialoguer et agir sur les causes de ces problèmes plutôt que de tenter de réduire au silence toutes les critiques du modèle socio-économique actuel. La Confédération paysanne s'oppose à cette dissolution et continuera avec toutes les forces progressistes à se battre pour un monde meilleur qui préserve notre planète et qui protège les droits des paysans, notamment leur accès à la terre et à l'eau. On ne peut que souscrire à tout ce qui est dit là, bien sûr. On voit en plus qu'il y a une logique systématiquement, un travers politique, hein, de la politique politicienne de communication, c'est-à-dire que le plus souvent, on entend, hein, dans les médias, c'est une succession d'effets d'annonce, avec souvent des milliards à la clé, puis après on nous dit qu'il n'y a plus assez d'argent. Mais dans ces effets d'annonce, c'est je promets, je promets, je promets. Bien sûr, il y a plusieurs travers, c'est que on mesure finalement, en tout cas l'État mesure dans sa communication que l'atteinte de ses propres objectifs. Mais il faut bien distinguer des objectifs qu'on se donne avec, des moyens qu'on se donne avec la réalité du terrain. Hein. Je prends un exemple. Le président de la République avait dit qu'il allait résoudre le problème des personnes qui dorment à la rue, hein, qu'il n'y aurait plus aucun SDF. Or, ce n'est pas le cas. Et toute la communication ministérielle revient à dire on a augmenté le nombre de places d'hébergement, on a augmenté le nombre de logements, etc. Mais pour mieux oublier que par l'effet de la spéculation immobilière, on ne répond pas aux besoins fondamentaux de l'être humain, à savoir de fournir un toit sur la tête, et c'est une condition sine qua non de la dignité. Et bien voilà, il en va de même sur les sujets d'écologie. Hein, il ne faut pas critiquer l'action gouvernementale qui opère des choix qui sont tout à fait qui empêchent finalement de mettre en œuvre dans les délais on va dire compatibles avec la sauvegarde de la planète les solutions. On en reparlera tout à l'heure peut-être dans nos articles. On peut penser au nucléaire, hein, avec la quantité d'argent phénoménale qui est balancée à perte, en pure perte, pour des solutions qui ne sont pas des solutions de court terme, hein, puisque le temps de relancer un programme nucléaire, ça se fait pas rapidement. Et surtout, ce sont des solutions qui ne sont pas viables, et on le verra tout à l'heure sur différentes problématiques, celle de l'eau notamment, et en mettant de côté, bien sûr, le vrai sujet qui est celui de l'allocation optimale des ressources en limitant les besoins, donc celui au-delà de la sobriété, celui de la décroissance, à savoir quel niveau de service est acceptable au regard des contraintes environnementales, et ce niveau de service, bien sûr, doit être ajusté par rapport aux capacités de servir de manière égalitaire tout le monde, hein, voilà, on peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir 5 milliards d'automobilistes, donc ça veut dire qu'il faut organiser la société autrement, et l'organiser autrement, c'est ça le vrai sujet politique, et c'est pas le sujet de jouer aux petits entrepreneurs de l'entreprise France en rajoutant le mot France derrière chaque bientôt vous avez vu on va avoir un monstre technocratique qui va s'appeler France Emploi, il y a France Relance, bientôt il y aura peut-être France Logement, France Environnement, voilà, c'est une grande inventivité encore une fois de nos technocrates et de nos communicants qui gèrent les affaires économiques, politiques et sociales comme une entreprise privée à but lucratif, ce qui est totalement contraire à l'esprit du service public et à l'esprit public. Voilà, bien sûr, je me suis un peu éloigné du sujet des soulèvements de la terre, hein, puisqu'il y a aussi cet aspect criminalisation contre laquelle il faut bien sûr lutter avec tous les moyens possibles, et y compris sur le terrain juridique. Je crois que la lutte est aussi engagée, et également par l'intelligence tactique que nous pouvons avoir. Et bien sûr, rien n'est plus difficile pour le système qui fonctionne de manière pyramidale, on le voit bien, hein, avec le monarque républicain. Rien n'est plus difficile que bien d'avoir à faire face à bien un groupe fédéré, mobile, qui se fédère en fonction d'objectifs ponctuels, qui ne passe pas vers un système avec un représentant avec la grosse tête et qui est bien identifié. Donc des actions multiformes telles que peuvent mener les soulèvements de la terre, et eh bien tout ça, ça correspond aussi à un modèle d'organisation de société qui est plus efficace et qui permet surtout de répondre au mieux par rapport aux contraintes du terrain, aux contraintes locales, à encore une fois l'allocation des ressources et aux biens sociaux fournis à l'ensemble des populations. Donc vraiment, je voulais insister sur cet enjeu par rapport à cette dissolution en cours du mouvement appelé les soulèvements de la terre, qui ne se dissolveront pas. Allez, on va s'accorder une pause musicale bien méritée, et puis on se retrouve en ouvrant tout à l'heure la page biodiversité, et on se retrouve donc juste après cette pause musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Va chercher de l'eau au fond du puits, va chercher de l'eau, je t'en supplie. Va chercher de l'eau et l'arbre de vie. Tout contre nos cœurs déjà refleurit. Va chercher de l'eau au fond du puits. Tout au fond du puits, des souvenirs. Laisse aller les jours à jamais enfuis. Puisque nos 20 ans vont nous revenir, alors toutes nos amours vont repasser pour faire un seul amour, car nous avons découvert l'arbre de vie. Va chercher de l'eau au fond du puits. chercher de l'eau, je t'en supplie. Pour nous deux, le temps va recommencer. Nous ne verrons plus passer les années. Va chercher de l'eau et l'arbre de vie. Tout contre nos cœurs déjà refleuri. L'arbre de vie, l'arbre de vie.
L'arbre de vie, c'était Lenny Escudero sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Et nous sommes toujours dans l'émission Les Mangeux de Terre, comme d'habitude, fait un tour d'horizon de l'actualité du mois en cours, en ouvrant la page biodiversité avec quelques informations éparses. Donc la première, issue du site Reporter, dans une information du 29 juin, qui nous rappelle que dans le cadre d'une étude publiée donc le 29 juin dans la revue Communication Biology, une équipe de scientifiques a tenté de mesurer l'exploitation des vertébrés par les humains. Et le résultat, donc, c'est que l'Homo sapiens utilise ou commercialise un tiers des espèces de vertébrés vivant sur Terre et qu'il représente une menace pour 39% d'entre elles. 55% des espèces de vertébrés utilisées par les humains, y compris en mer, sont transformées en nourriture. Le reste est exploité à des fins médicinales, pour la chasse récréative, en tant qu'animaux de compagnie ou pour confectionner des vêtements. Parmi eux, le pangolin, dont les écailles sont considérées comme ayant des vertus médicinales dans certains pays d'Asie. Caetodon rainfordi et le calao à casque rond, un joli poisson jaune et un oiseau chamarré utilisé pour arborer les aquariums et les volières. Ou encore le thon rouge de l'Atlantique, dont des millions d'individus finissent chaque année en boîte de conserve. Les deux auteurs de l'étude ont ensuite comparé l'usage des vertébrés des humains à celui d'autres grands prédateurs, et leurs trouvailles sont marquantes. Sur une surface équivalente, les humains exploitent 300 fois plus d'espèces que les jaguars, 80 fois plus d'espèces que les lions et 113 fois plus d'espèces que les requins blancs. Cette surexploitation pourrait entraîner un déclin important de la diversité des vertébrés, conclut-il. Et puis avec Novetic, on peut revenir sur cette condamnation de l'État à réparer le préjudice écologique causé par l'usage des pesticides dans le cadre du premier procès sur la biodiversité, qui se conclut donc sur la condamnation de l'État pour ne pas avoir respecté ses obligations de réduction de pesticides qui a causé un préjudice écologique. Le tribunal administratif de Paris a donné un an au gouvernement pour réparer ce préjudice et prévenir l'aggravation des dommages. Cette journée marque un tournant dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité en France. Se réjouissent les associations à l'origine du recours Justice pour le vivant, qui vise l'État pour manquement à ses obligations de protéger la biodiversité. Le tribunal administratif de Paris l'a condamné jeudi dernier, donc 29 juin, et en reconnaissant ce préjudice écologique lié à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Après la pollution et le climat, le gouvernement est donc désormais aussi condamné sur le terrain de la biodiversité. C'est un jugement historique, commentent les cinq ONG, Polynis, Notre Affaire à Tous, Biodiversité sous nos pieds, l'Association pour la protection des animaux sauvages et l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières, les cinq ONG qui étaient à l'origine du recours. La justice reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État dans l'effondrement du vivant et ses insuffisances dans l'évaluation des risques des pesticides, écrivent-elles dans un communiqué. Il s'agit d'une première étape indispensable pour enrayer l'extinction en cours, estiment les associations, qui appelle le gouvernement à mener les transformations nécessaires rapidement. Dans la lignée de l'affaire du siècle, qui avait réussi à faire condamner l'État pour son inaction climatique, ces cinq ONG avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris en janvier 2022 afin de faire reconnaître la faute de l'État dans la sixième extinction de masse. Elles espéraient lui imposer de réparer le préjudice écologique causé et réviser le processus de mise sur le marché des pesticides, dont l'usage intensif est l'une des causes du déclin de la biodiversité. D'abord, Le tribunal reconnaît bien l'existence d'un préjudice écologique résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, du déclin de la biodiversité, de la biomasse et de l'atteinte aux bénéfices tirés par l'homme de l'environnement. Il retient deux fautes commises par l'État. Premièrement, la méconnaissance d'une part des objectifs qu'il s'était fixés en matière de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et d'autre part, de l'obligation de protection des eaux souterraines. Il juge que le préjudice écologique présente un lien direct et certain avec ces fautes. Dès lors, il ordonne au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer ce préjudice et prévenir l'aggravation des dommages au plus tard d'ici le 30 juin 2024. En revanche, le tribunal n'a pas suivi la demande des ONG et les recommandations de la rapporteure publique sur le réexamen des procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le résultat des études supplémentaires que pourrait exiger l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, n'est pas connu à la date du présent jugement et il ne peut donc en être inféré avec certitude que cela aurait pour effet de modifier significativement la nature ou le nombre des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, pointe le jugement. Sur ce point, les associations feront appel devant la Cour administrative d'appel de Paris et introduiront en parallèle un nouveau recours devant le Conseil d'État pour obtenir la mise en œuvre de cette décision. Enfin, l'État devra verser 1 euro symbolique à chacune des associations requérantes au titre du préjudice moral subi. La France reste championne des pesticides. Selon l'ONG Génération Future, elle est dans le top 3 des pays européens qui autorisent le plus de pesticides. En volume, la France est aussi le pays de l'Union européenne qui vend le plus de pesticides, ce qui s'explique en partie par sa surface agricole. Après l'échec des deux premiers plans éco-phyto qui devaient diviser par deux l'usage des pesticides, une troisième version est attendue pour l'été. Elle sera particulièrement scrutée dans le cadre de cette affaire. Je pense que donc c'est un article de Concepción Alvarez du prix sur Novétique. On se rappelle évidemment, hein, pour peut-être les plus anciens d'entre nous, en tout cas le Grenelle de l'environnement avec cet objectif de diviser par deux les pesticides qui n'a absolument pas été atteint. Au contraire, on a eu une augmentation, mais il fallait faire croire, il fallait donner quelques hochets de négociateurs à des associations pour participer à ce Grenelle de l'environnement. Et bien participer à une forme d'enfumage général et généralisé, et certaines organisations courageuses, et voilà, on peut penser à la démarche du journal La Décroissance, ont choisi dès le départ de se mettre dans le dissensus et de ne pas participer à cette mascarade, et effectivement. Avec la réflexion, mais on voit que c'était la bonne attitude plutôt que d'aller cautionner cet équilibre que l'on cherche toujours à trouver entre l'intérêt des industriels et ceux des environnementalistes, et on sait au profit de qui tout cela tourne toujours. Et puis, puisqu'on évoquait le sujet de la biodiversité et de l'eau, eh bien, on va directement sur la page de la question de l'eau avec toujours le blog Les eaux glacées du calcul égoïste de Marc Lémé dans une communication du 8 juin qui revient sur une pétition publiée sur Internet. L'ONG No Plastic in My Sea, pas de plastique dans ma mer, interpelle sur le manque de points d'eau potable gratuits dans les lieux publics en France qui sont pourtant obligatoires depuis janvier 2022. Cette ONG s'est adressée à la SNCF, aux centres commerciaux ou encore aux établissements sportifs. Alors l'ONG donc lutte contre la pollution au plastique a publié donc cette pétition soutenue par d'autres associations et personnalités demandant la création de plus de points d'accès à l'eau potable. Selon les estimations du ministère de la Transition écologique, près de 30 000 points d'eau devraient être ouverts en France dans des lieux de forte affluence, rappelle l'association. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, estime-t-elle. L'association s'appuie sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc AGEC, AGEC, qui a été promulguée en 2021 et qui vise notamment à réduire l'utilisation de bouteilles en plastique. Selon la loi, les ERP, donc les établissements recevant du public, qui accueillent plus de 300 personnes, sont soumis à l'obligation de mettre à disposition au moins un point d'eau potable dès lors qu'ils sont raccordés au réseau, écrit l'ONG. De quoi permettre à tout le monde de remplir sa gourde dans des lieux de passage. Des grandes gares, stations-service ou encore salles de spectacle. Une mesure qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2022. Or, 15 mois plus tard, alors que la majorité des Français utilisent régulièrement une gourde, ils ne peuvent toujours pas la remplir dans vos établissements, peut-on lire dans cette pétition, qui s'adresse aussi bien à la SNCF qu'aux établissements sportifs, culturels ou encore aux centres commerciaux. L'ONG demande donc à ce que ces 30 000 points d'eau soient ouverts d'ici l'été 2023, ce qui permettra à chacun de s'hydrater facilement sans bouteille plastique. Il n'y a pas vraiment eu de volonté de ces structures de respecter la loi, regrette Muriel Papin, présidente de l'association. On va approcher de la période estivale où on va être des millions dans les gares, les aéroports, les stations-service, et ce n'est pas normal de ne pas avoir de point d'eau. No Plastic NYC lutte contre la pollution plastique et notamment les bouteilles en plastique. La moitié des Français est équipée d'une gourde, note Muriel Papin. Il faut absolument leur donner la possibilité de remplir leur gourde et ne pas les obliger à acheter les bouteilles en plastique. L'association rappelle que 15 milliards de bouteilles sont vendues en France chaque année et que 3 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'une seule bouteille d'eau, ce qui contribue à assécher les nappes phréatiques. L'ONG milite également pour un accès gratuit pour tous à l'eau potable. En gare, le prix moyen est de 2 euros à 2,50 euros pour une bouteille de 50 centilitres d'eau, soit plus de 8 euros pour une famille de 4 personnes, écrit l'association. Donc un combat qui est important. Et puis là, on parle de biens publics, hein, de services publics et de limiter la pollution avec le transport. Encore une fois, du plastique, et le plastique, c'est du pétrole, des bouteilles d'eau. Le vrai progrès, c'est d'avoir l'eau potable arrivant à un point d'eau. C'est pas d'avoir une eau soi-disant parée de différentes vertus vendues par la publicité avec des sels minéraux, etc. Mais en fait, dont le prix de cette pureté est finalement le transport d'une marchandise qui sillonne toutes les routes en France et qui est dans le monde et qui est responsable d'une pollution totalement inutile, hein, sous couvert de modernité et sous couvert de, encore une fois, pureté. C'est quand même une aberration de la société de consommation. Allez, on fait un tour avec Eau et Rivière en Bretagne, qui a une activité juridique assez dense, mais qui est couronnée de succès assez souvent. Communiqué du 22 juin de Eau, Rivière et Bretagne, le tribunal administratif vient de reconnaître que l'Agence régionale de santé, donc un organisme dépendant de l'État, a écarté à tort des pollutions majeures de son classement des eaux de baignade, donc en Bretagne. Le juge enjoint l'agence à corriger ses données sous 2 mois. Donc c'est le juge du tribunal administratif de Rennes qui vient de communiquer jeudi 22 juin son jugement dans l'affaire des eaux de baignade qui opposait donc Eaux et Rivières de Bretagne à l'agence régionale de santé. Et le juge a suivi les conclusions du rapporteur public et a donné raison à l'association de protection de la nature. Citation, la décision par laquelle le directeur général de l'ARS de Bretagne a implicitement refusé de procéder à la correction des données de classement des eaux de baignade de Bretagne depuis 2016, pour y intégrer certains prélèvements correspondant à de simples épisodes pluvieux et en exclure les échantillons de recontrôle pris en compte, doit être annulé. Il est enjoint à la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Bretagne de procéder à la correction des données de classement des eaux de baignade de Bretagne depuis 2016, conformément aux motifs du présent jugement et dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il aura fallu donc la pugnacité d'Eaux et Rivières de Bretagne et de ses associations membres, APPCL et AEPI, pour faire éclater le scandale sanitaire au grand jour. Et le scandale est simple à comprendre. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a, en multipliant les illégalités, faussé les classements des eaux de baignade pour les plages les plus polluées de Bretagne. Les plages les plus sujettes aux pollutions bactériennes sont généralement situées à l'embouchure de rivières. Ces plages à problème sont parfaitement connues, elles représentent environ 10% des plages bretonnes. Leur classement se dégradait dangereusement quand en 2016, l'ARS Bretagne a commencé à commettre des erreurs de méthodologie, entre guillemets, selon les propres termes du jugement, dans les statistiques, ce qui a conduit à améliorer artificiellement leur classement. Si le thermomètre fonctionnait correctement, voici ce qu'il aurait vraiment mesuré. Ça renvoie à une carte évidemment qui est difficile à décrire par les ondes, hein, bien sûr. Et cette carte, elle est accessible sur le site de Eaux, Rivières et Bretagne. qui, elle, montre les pollutions qui n'ont pas été écartées et ont donc normalement été prises en compte dans le calcul des classements, et montre bien la différence entre la carte avant le jugement et celle qui est réelle si on prend en compte toutes les pollutions. Et il dévoile le poteau rose, hein, il suffisait en effet d'écarter très peu de ces pollutions pour entraîner une amélioration artificielle des classements des plages à problème, nous dit l'association. On peut recalculer le classement suivant les règles de la directive européenne après rétablissement des pollutions écartées à tort. Et c'est le travail que l'ARS devra faire pour exécuter le jugement du tribunal administratif. Évidemment, les classements devraient être corrigés non seulement en Iroise, c'est la zone sur laquelle portait le contentieux, mais pour toute la Bretagne, puisque c'est la région tout entière qui est concernée par les anomalies. Intéressant aussi aux rivières de Bretagne, constate que les plages à problème sont généralement situées à l'embouchure de cours d'eau dont les bassins versants sont très agricoles, comme ça a pu être démontré en pays d'Iroise. La carte de Bretagne montre que les pollutions se concentrent dans les zones déjà touchées par des pollutions d'origine agricole, ce qui confirme le lien probable entre pollution bactériologique chronique de certaines plages et épandage d'effluents d'élevage, sans pour autant dédouaner la responsabilité des collectivités et particuliers et la nécessaire mise aux normes des systèmes d'assainissement. Pendant près de 7 ans, cette mauvaise mise en œuvre des obligations de surveillance des plages a conduit à minimiser les problèmes et s'éviter de devoir pousser les investigations pour rechercher les origines des contaminations. Si on ne vise pas la bonne cause de pollution, on ne risque pas de l'éradiquer, nous dit l'association Eau et Rivières de Bretagne. Alors, pour élargir un peu le propos, la Bretagne n'est bien sûr pas la seule région où il existe des plages souvent polluées. L'association constate que des plages de mauvaise qualité existent également au-delà de la seule Bretagne administrative et a produit une carte et est en relation avec les fédérations régionales de la Fédération France Nature Environnement afin d'expertiser les incidences de cette décision sur l'ensemble du littoral français. La précision apportée par le juge breton sur la définition d'une pollution à court terme est une jurisprudence qui va concerner l'ensemble des façades maritimes nationales. Voilà, c'est une nouvelle, moi, qui me semble intéressante et sur un travail, encore une fois, de fond. Hein, bien sûr, là, la visée était communicationnelle. Hein, bien, on voit que la logique économique du tourisme, ne pas effrayer le touriste, avait largement pris le dessus. Revenons à la base, à la santé, et réinterrogeons justement la corrélation qu'il peut y avoir entre la concentration de la production et notamment l'élevage de porcs et les conséquences sur l'environnement. Et si on fait évidemment payer ces conséquences environnementales, eh bien l'activité de concentration des élevages ne devient plus rentable, justement. Et c'est toute la question de, on ne va pas externaliser les coûts sur l'ensemble des populations pour maintenir artificiellement une activité qui est en plus destructrice de l'environnement. Il y a eu aussi trois affaires de pollution qui ont été jugées début mai au tribunal de Brest. Mais je vais peut-être pas m'attarder dessus, puisque voilà. En tout cas, il faut savoir que je vais peut-être juste en citer une, puisque plusieurs dizaines de mètres cube de lisier s'était déversé dans un affluent de la Panzée à Tolé dans le Finistère, en provenance de la société anonyme Kerjean, qui est une porcherie créée par Alexis Gourvenec. L'Office français de la biodiversité avait évalué que la totalité de la ressource piscicole présente dans l'affluent, ainsi que la quasi-totalité de cette même ressource présente à l'aval de la rivière, a été détruite du fait de l'écoulement de lisier. La pollution avait suscité une vive émotion au sein de la population. Lors de l'audience, l'agriculteur avait pleinement assumé sa responsabilité face aux questions du président qui pointait de multiples négligences, y compris la gestion d'une brèche dans un talus de rétention ou encore l'application de l'arrêté préfectoral lui enjoignant de creuser un bassin couvert de rétention. Le procureur avait requis 300 000 euros, dont 150 avec sursis, pour la SA Kerjean, ainsi que 20 000 euros, dont 10 avec sursis pour son dirigeant. Donc le tribunal judiciaire de Brest a reconnu la culpabilité de la société anonyme et l'a condamné à 200 000 euros d'amende, dont 100 000 avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction de percevoir toute aide publique pendant un an, ainsi que la publication du jugement. le gérant étant lui personnellement condamné à 20 000 euros, dont 10 000 avec sursis. Le préjudice moral des plaignants est reconnu et l'évaluation du préjudice écologique a été renvoyée au 14 mai. Et le tribunal avait ordonné une expertise dont le rapport sera remis d'ici 9 mois. Ce sont deux bonnes nouvelles et ce sont des luttes évidemment essentielles à mener et que mène très bien cette association dont nous nous faisons souvent l'écho sur cette antenne. Voilà, on va s'accorder quand même une pause musicale bien méritée. Alors on va évoquer juste après la pause bien des sujets en lien avec le climat, l'effet de serre. Et puis en basculant sur les sujets en lien avec l'énergie aussi. Donc voilà, la pause musicale va être en rapport avec ce sujet. Snow in Summer, The Cure, donc de la neige en été. Quel paradoxe. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre qui ouvre la page climat effet de serre avec Actu Environnement et le chiffre du 20 juin 2023 qui nous apprend que le plus grand volume de glace non polaire risque de fondre presque dans son entièreté avant la fin du siècle, selon un rapport du consortium intergouvernemental de recherche de la région de l'Hindou-Kouch himalayen, ici MOD, donc ça c'est l'acronyme, qui regroupe des chercheurs des 8 pays asiatiques recoupés par les chaînes de l'Himalaya, le Karakoram, l'Hindou-Kouch et le Pamir. Les projections futures restent peu rassurantes. Les glaciers de l'Hindou-Kouch himalayen perdront 30 à 50% de leur volume d'ici 2100 si le réchauffement climatique reste en dessous de 2 degrés, attestent les chercheurs. Au-delà, cette fonte sera plutôt de l'ordre de 55 à 80% à même échéance. Avec un réchauffement de l'ordre de plus 1,2 degré déjà constaté, la planète semble plutôt se diriger vers une augmentation de 3 degrés en 2100, et ce en sachant que le rythme de fonte des glaciers himalayens s'est accéléré de 65% de plus entre 2011 et 2020 qu'entre 2001 et 2010. L'accès à la ressource en eau dans la région devrait atteindre un pic en 2050 avec la fonte des glaciers avant de décliner, et le dégel du permafrost devrait mener en outre à plus de coulées de boue, même en haute altitude. Voilà ce que nous dit une des études sur le sujet du réchauffement et appliquée aux glaciers. Alors, avec le site aussi La Relève et la Peste, dans un article du 22 juin de Laurie Debove, tout d'abord, avant de présenter cet article et d'en parler, je voulais dire que bien tous ces journaux, là en l'occurrence il s'agit de journaux en ligne, ont besoin pour faire leur travail d'investigation, et ces journaux ne vivent pas de publicité, ont besoin du soutien des lecteurs, et c'est absolument indispensable de soutenir la presse libre, indépendante, et non soumise aux intérêts économiques, comme l'est notre radio, Radio Libertaire. Mais aussi, il faut soutenir cette presse, alors en l'achetant bien sûr, acheter la presse pour qu'elle ne soit pas vendue, selon un certain slogan, mais aussi dans tous ces sites en ligne. Donc voilà, je me relais, en tout cas, La Relève et la Peste fait partie de ces sites qui font un bon travail. Et donc le sujet, c'est la canicule marine sans précédent qui dévaste la mer du Nord et risque de bouleverser le cycle de l'océan. Des effets qui se font déjà sentir alors que deux systèmes tropicaux évoluent en ce moment même dans l'Atlantique. Des événements hâtifs par rapport à la saison habituelle des ouragans. Donc à l'heure où l'article était écrit, le 22 juin, la saison des cyclones pourrait commencer dès ce mois-ci dans les Antilles, ce qui serait une première depuis 1851. Et c'est bien sûr le genre de record qu'il faut arrêter de dépasser. L'océan Nord-Atlantique subit une canicule marine inédite, particulièrement intense dans les mers entourant le Royaume-Uni et l'Irlande. Les scientifiques sonnent l'alarme sur ses conséquences dévastatrices pour les écosystèmes, mais aussi son rôle dans l'aggravation d'événements météorologiques extrêmes. La canicule marine européenne continue de percer le plafond. Elle est catégorisée extrême par la NOAA, donc c'est une agence américaine, autour de l'Écosse. Hier, donc le 21 juin, la température de l'océan Nord-Atlantique a atteint 23,05 degrés, soit plus 1,2 degré d'anomalie. Il n'y a aucun précédent en juin, de très loin, alerte l'agroclimatologue Serge Zaka. Les eaux du nord de l'océan Atlantique sont particulièrement touchées. Celles au large de l'Irlande et du Royaume-Uni sont ainsi 4 à 6 degrés au-dessus des normales saisonnières. Les anomalies de température sont également extrêmes dans la Baltique, avec des températures supérieures de plus de 8 degrés à la moyenne. Une canicule marine est actée comme telle lorsque la surface de l'océan est plus chaude que 90% du temps, 5 jours de suite ou plus. Les canicules marines sont causées par de multiples phénomènes, souvent une combinaison de processus atmosphériques et océanographiques. Elle est ainsi d'abord causée par l'augmentation de la température de l'air qui vient réchauffer les eaux de surface. Corrélée à une absence de vent, les eaux superficielles vont alors concentrer toute cette chaleur, un phénomène habituel car l'océan est un véritable climatiseur de la planète en absorbant son excellente chaleur causée par les émissions de gaz à effet de serre. L'océan a absorbé environ 90% de cet excès de chaleur. Sans l'océan, les températures aujourd'hui seraient déjà 30 degrés plus élevées qu'avant l'ère industrielle, soit des températures avoisinant les 70 degrés en été aux États-Unis, précise ainsi le chercheur en écologie marine Raphaël Séguin sur le média Bon Pote. La canicule marine que subit cette année l'océan Atlantique Nord est est ainsi causée par un ensemble de facteurs, le réchauffement climatique, la réduction du soufre dans les carburants des bateaux dont les émissions refroidissaient la zone et une diminution de la poussière saharienne qui réfléchit habituellement la chaleur. Le plus préoccupant pour les scientifiques étant que cette canicule arrive avant le commencement du phénomène climatique naturel El Niño, dont les prémices commencent à se faire sentir dans l'océan Pacifique équatorial, qui a un impact sur le réchauffement des températures moyennes et les précipitations dans le monde entier. En effet, la Niña vient tout juste de s'arrêter, un phénomène climatique périodique qui a contribué à refroidir l'océan ces dernières années. En bref, les canicules marines pourraient encore gagner en intensité alors qu'elles se produisent deux fois plus fréquemment que dans les années 80. Or, les effets d'une canicule marine sont aussi nombreux et alarmants que les incendies qui frappent de plus en plus nos continents à la faveur du réchauffement climatique. À l'image d'un feu qui brûle tout sur son passage, ces incendies sous-marins déciment la faune et la flore marine. J'ai toujours pensé que les canicules marines n'auraient jamais d'impact écologique dans les eaux froides du Royaume-Uni et de l'Irlande, mais celle-ci est sans précédent et risque d'être dévastatrice. Pour l'heure, les températures actuelles sont bien trop élevées, mais pas encore mortelles pour la majorité des espèces, mais très stressantes pour beaucoup. Si le phénomène se prolonge tout l'été, nous pourrions voir une mortalité massive de varechs, d'herbiers marins, de poissons et d'huîtres, s'inquiète le docteur Dan Smile de l'Association de biologie marine dans The Guardian. Entre 2013 et 2016, une canicule marine particulièrement intense dans l'océan Pacifique, désignée sous le nom de Blob, avait ainsi décimé des millions d'oiseaux marins et de poissons tout en favorisant la multiplication excessive d'algues néfastes au comportement des baleines et à l'industrie de la pêche. Les températures de l'eau de surface s'étaient maintenues en moyenne à 2,5 degrés au-delà des normales pendant 226 jours consécutifs et le réchauffement a eu lieu jusqu'à 1000 mètres sous la surface de l'eau. Un constat partagé par une autre étude scientifique publiée en mars 2023, mettant en évidence que les canicules marines peuvent affecter plus longtemps et intensément les fonds marins que la surface de l'eau. Pour échapper à la fournaise, de plus en plus d'espèces marines tropicales se déplacent vers le nord et se retrouvent en compétition directe avec la faune locale. La Méditerranée devient à elle seule un laboratoire d'expérimentation d'adaptation au changement climatique sous les flots. Durant l'été 2022, une canicule marine hors norme a provoqué une destruction massive de la vie sous-marine, notamment les coraux et les gorgones. Ces chaleurs suffocantes ont également facilité l'arrivée d'espèces invasives, comme une algue brune ou le poisson lapin, un poisson herbivore qui détruit les herbiers de Posidonie alors que leur rôle est crucial pour capter le CO2. Produire de l'oxygène, empêcher l'érosion des fonds marins et même réduire la pollution plastique. Encore plus préoccupant, si cela ne l'était pas déjà assez, l'impact de ces canicules marines n'est pas seulement local ou sur la biodiversité. En effet, les océans participent à la régulation du climat et de telles perturbations ont des répercussions à l'échelle planétaire. De fait, les océans influencent les régimes de pluie et les événements extrêmes comme les ouragans. Les effets se font d'ailleurs déjà sentir, alors que deux systèmes tropicaux évoluent en ce moment même dans l'Atlantique, donc autour du 21 juin. La saison des cyclones pourrait ainsi commencer, et je crois que ça a été le cas, ce mois-ci dans les Antilles, ce qui est une première depuis 1851. D'autres études ont également démontré que le réchauffement de la température de surface de la mer de l'Atlantique Nord a une influence sur les saisons des pluies en Afrique de l'Ouest et certaines parties de l'Amérique du Sud, y compris le nord-est du Brésil. Il s'agit d'une situation mondiale vraiment inquiétante, car le réchauffement de surface supplémentaire que nous observons en ce moment finira par se mélanger à la colonne d'eau de l'océan. Une partie de cet excès de chaleur se retrouvera dans l'océan Arctique, via les courants océaniques à travers le détroit de Fram et la mer de Norvège, aggravant encore la disparition de la banquise arctique, expliquent les scientifiques de l'Agence spatiale européenne. La banquise arctique réduit de plus en plus d'année en année. Sa surface a déjà été réduite en moyenne de 9% en hiver et de près de 50% en été depuis les premières photographies satellites en 1979, quand son épaisseur a diminué de 66%. Elle pourrait totalement disparaître l'été dès les années 2030, selon une étude publiée en juin 2023, soit une décennie plus tôt que les récentes projections du GIEC. Parmi les nombreuses répercussions que la disparition de la banquise arctique engendrerait, l'augmentation des événements météorologiques extrêmes aux latitudes moyennes, comme les canicules et les feux de forêt, mais aussi les vagues de froid, l'accélération du réchauffement mondial avec la fonte du permafrost, ou encore la montée du niveau des océans en faisant fondre la calotte glaciaire du Groenland. De surcroît, Plus la concentration de CO2 augmente dans l'atmosphère, moins les plantes émettent de vapeur, et plus l'Arctique se réchauffe et donc fond, ce qui est un cercle vicieux. Cette canicule marine inédite et les bouleversements en cascade qu'elle risque de provoquer nous rappellent une fois de plus qu'il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour préserver ce qui peut encore l'être. Voilà un article puisé sur le site La Relève et La Peste. Et puis alors sur un autre registre, en tout cas mais toujours sur les conséquences du réchauffement climatique, avec Reporter, en bref, dans un article du 26 juin, nous rappelle que le réchauffement climatique et la fréquence des vagues de chaleur ont provoqué près de 33 000 décès en France, donc entre 2014 et 2022, parmi lesquels 23 000 personnes âgées. Ces chiffres ont été publiés donc officiellement le 23 juin dans un rapport de Santé publique France. Si les périodes de canicule ne représentent que 6% des jours étudiés sur la totalité de l'étude, ces pics de chaleur ont provoqué près de 28% des décès recensés. De plus, l'élévation globale de température moyenne génère une plus grande fréquence de risque. Entre 1000 et 7000 décès sont désormais attribuables à la chaleur chaque année, selon Santé publique France. Dans ses conclusions, l'agence publique insiste donc sur l'importance de se munir d'outils de prévention pour diminuer les risques et la mortalité, en privilégiant les solutions les plus respectueuses de l'environnement et les moins énergivores, et des interventions de fond pour rendre les villes plus résistantes face à la chaleur, notamment en favorisant des politiques publiques qui adaptent la structure des villes pour éviter les îlots de chaleur dans les zones urbaines. Parmi les endroits surexposés aux températures élevées, les logements mal isolés dans des quartiers en manque de végétalisation. C'est ce que rapporte une deuxième étude publiée par la Fondation Abbé Pierre le 26 juin, qui souligne que près de 60% des ménages ont souffert de la chaleur dans leur logement en 2022. Sur le ton de l'urgence climatique, l'association déplore que les 5,2 millions de passoires thermiques qui se transforment en bouilloires énergétiques impossibles à refroidir en été. La Fondation Abbé Pierre réclame donc que les autorités publiques, États, collectivités, propriétaires se saisissent de la question de la précarité énergétique d'été en facilitant la démarche de travaux et de rénovation des villes, dans l'espoir d'inverser la courbe de mortalité qui pourrait encore grimper davantage avec l'augmentation du nombre et la fréquence des vagues de chaleur. On en parle souvent sur cette antenne, hein, bien sûr, cet enjeu de rénovation, il est totalement réalisable à partir du moment où le logement n'est pas considéré comme un outil et un objet de spéculation, ce qu'il est très largement, notamment dans le parc privé, aujourd'hui, et c'est un dévoiement bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas un objet, ce n'est pas le logement n'est pas une marchandise, ne doit pas l'être en tout cas. Et bien sûr, les bénéfices faits sur bien les coûts des logements hein, qui explosent bien plus vite que le coût de la vie devraient être intégralement utilisés pour les rénover, ce qui bien évidemment n'est pas le cas. Donc on le voit, on a un problème structurel avec cette approche capitaliste de mainmise sur des biens vitaux tels que l'est le logement. Dernier article sur le sujet, sur le climat, avec Novetic, un article du 29 juin, qui revient sur le Haut Conseil pour le climat, le HCC, donc, qui est un organe consultatif mis en place par le président de la République, qui a publié récemment, donc le 29 juin, un rapport annuel qui passe au crible l'action du gouvernement en matière climatique. Et encore une fois, la trajectoire n'est pas la bonne, aucun secteur n'est sur la bonne voie. Alors que l'année record de 2022 est appelée à devenir la norme, la France ne se prépare pas suffisamment aux conséquences de la crise climatique, alerte le Haut Conseil pour le climat. L'année 2022 a été l'année de tous les records, symbole de l'intensification des effets du changement climatique sur la France, rappelle la climatologue Corinne Le Quéré à la tête du Haut Conseil pour le climat. En introduction de la présentation du nouveau rapport annuel de l'organisme consultatif mis en place par Emmanuel Macron en 2019. 2022 a en effet été exceptionnellement chaude, avec un réchauffement de plus 2,9 degrés par rapport à la moyenne 1900-1930 selon les données de Météo France. C'est le réchauffement moyen que nous aurons en France en 2050-2060 dans un scénario à plus de degrés, insiste la spécialiste, qui appelle à prendre la mesure de l'urgence et d'énumérer les nombreuses conséquences liées à cette température exceptionnelle. Trois vagues de chaleur, un déficit de précipitations de 25% en métropole, des rendements agricoles en baisse de 10 à 30%, une production hydroélectrique qui a chuté de 20%, 2000 communes qui ont connu de fortes tensions sur l'eau potable, 72 000 hectares brûlés, 2816 décès en excès liés à la chaleur, 60 cas de dengue. La liste est longue. La France est particulièrement exposée aux conséquences du réchauffement climatique, mais n'est pas prête à y faire face, tranche le Haut Conseil pour le climat. Le réchauffement moyen en France a atteint plus 1,9 degré sur la dernière décennie, bien au-dessus du niveau mondial qui se situe à plus 1,15 sur la même période. Et la trajectoire actuelle ne montre pas vraiment d'inflexion. Un réchauffement de près de 2 degrés à l'horizon 2030 avec une fourchette haute à 2,3 degrés en moyenne sur 20 ans par rapport à la période 1850-1900 est pratiquement inévitable pour la France et les années extrêmes approchant les 3 degrés comme en 2022, de plus en plus fréquentes, alertent les spécialistes. Malgré une baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2022, moins 2,7% sur un an, le deuxième budget carbone sur la période 2019-2022 est ainsi en voie d'être dépassé pour les émissions nettes en raison de la diminution de l'absorption du CO2 par les puits de carbone, moins 21% en 2021. Ainsi, le Haut Conseil pour le climat estime que le rythme de réduction des émissions de la France doit presque doubler pour atteindre les objectifs européens Fit for 55 en 2030 et que les puits de carbone doivent fortement augmenter. Alors là, je me permets toujours le même commentaire, hein, puisque mesurer les émissions d'un territoire national, ça n'a qu'un sens assez moyen, puisque si la logique est plus je délocalise, plus je suis vertueux sur un plan environnemental, ça pose un problème. Et donc c'est bien pour ça que il y a la question de l'empreinte écologique est créée, c'est-à-dire qu'on va imputer aux consommateurs les émissions de gaz à effet de serre des producteurs. Hein, si on consomme des produits faits en Chine, je cite ça au hasard, il est bien évident que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas à imputer à la Chine, mais bien à la France qui consomme ces produits. Et bien sûr, seulement avec cette approche, on a une approche globale et c'est seulement en intégrant cette approche que des choses qui paraissent évidentes, on peut pas demander à l'ensemble de la population de se serrer la ceinture, tout le monde a le droit de consommer comme il veut, si on a cette comptabilité par l'empreinte écologique, il est clair qu'on peut poser les bases d'un débat sérieux, alors que là, ce n'est pas le cas. Donc j'ai fini mon commentaire et je reprends la fin de l'article de Novetic qui nous dit que selon le Haut Conseil pour le climat, aucun secteur en France n'est un bon élève et sur les 34 indicateurs étudiés, seuls 3 avancent plus vite que prévu pour des raisons non conjoncturelles. Résume Corinne Lequéré qui appelle le gouvernement à mettre en œuvre une politique économique d'ampleur pour répondre à la hauteur des enjeux. La consommation des véhicules thermiques croît du fait de l'augmentation du poids des voitures. Donc c'est le fameux effet rebond, hein. On a une consommation qui est moindre, comme dans un logement par exemple, mais du coup on augmente la qualité, on augmente le chauffage et finalement on finit par consommer plus alors que le système de chauffage est plus performant. Cet effet rebond, il se reproduit un peu partout, jusqu'aux écrans notamment. On voit que les téléviseurs consommaient plus parce que la taille des écrans avait beaucoup plus augmenté que les économies d'énergie faites sur la technologie. Je reprends l'article qui me pousse à faire pas mal de commentaires, je le concède. Donc la consommation des véhicules thermiques croît du fait de l'augmentation du poids des voitures et l'électrification des véhicules se déploie trop lentement, ça c'est le Haut Conseil pour le climat qui le dit. Nous on parlerait plutôt que de considérations technologiques, évidemment de considérations de sobriété qui est l'axe majeur, hein, interroger la nécessité de se déplacer, d'avoir tous une voiture individuelle. C'est tout ça qui doit être remis en question avant même les questions technologiques ou même d'énergie renouvelable. Je ferme la parenthèse. La consommation d'énergie dans les bâtiments diminue trop lentement et l'augmentation de la production des énergies renouvelables électriques est trois fois trop lente. Les puits de carbone des forêts diminuent à cause de l'augmentation de mortalité et de la moindre croissance des arbres, pointe le rapport. On a dépassé la politique des petits pas, mais on n'est pas non plus au pas de course car il y a des blocages dans tous les secteurs, ajoute la présidence du Haut Conseil pour le Climat. Au niveau de l'Union européenne, la Cour des comptes a elle aussi alerté lundi 26 juin sur le fait que les objectifs climatiques européens pour 2030 avaient du plomb dans l'aile. Nous n'avons trouvé que peu d'éléments laissant penser que les ambitieux objectifs 2030 donneront lieu à des actions suffisantes. Rien n'indique qu'un financement suffisant sera à disposition, relève l'institution basée au Luxembourg. Au niveau mondial, la déforestation continue de progresser avec en moyenne l'équivalent d'un terrain de football de forêt vierge détruit toutes les 5 secondes en 2022. Voilà un état de la situation qui est pas très réjouissant, je le concède, mais nous avançons les yeux ouverts. Il faut avancer les yeux ouverts, hein. On n'est pas là pour... se raconter des histoires que tous ensemble on va y arriver. Non, il faudra mettre fin aux intérêts en tout cas de ce système capitaliste pour arriver à se sortir significativement de cette trajectoire qui nous emmène droit dans le mur, c'est absolument certain. Allez, on s'accorde une assez longue pause musicale. On va rejoindre des îles au soleil, vous allez voir ça, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Toujours su que c'était vrai. sa maison.
Voilà, c'était les Wampas, les îles au soleil. Alors, sur le final, je rappelle hein, que vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, qui est une radio sans Dieu ni maître. Il était évoqué le Seigneur, et bien voilà, on va dire que c'est une licence poétique, et de toute façon, la chanson est très belle, et nous a emmené assez loin, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est une chanson qui permet de s'évader un peu de cette triste réalité sur des îles imaginaires. Voilà, on reprend donc le cours et la fin surtout de l'émission Les Mangeux de Terre avec bien une page énergie. Alors avec Novetic, toujours dans un article très récent du 2 juillet, qui revient justement sur cette précarité énergétique d'été et qui nous dit que plus d'un Français sur deux souffre de la chaleur dans son logement. Donc il revient sur cette... on en a parlé, hein, sur la Fondation Abbé Pierre, qui évoque cette précarité énergétique d'été dans cette étude publiée le 26 juin. Donc près de 60%, on l'a vu, qui déclarent avoir subi un excès de chaleur lors de l'été 2022, soit une augmentation de 8 points en un an, d'après les chiffres du médiateur de l'énergie, et les locataires seraient particulièrement touchés, donc à 63%, mais aussi les personnes qui vivent en appartement. Comme en témoigne, alors c'est un témoignage, hein, d'Alia auprès des auteurs du rapport, 42 à l'extérieur, 46 à l'intérieur, les murs étaient chauds, le canapé, le sol, les meubles. Ce jour-là, j'ai pris conscience qu'on ne pourrait pas rester encore très longtemps habité dans cet appartement, regrette cette propriétaire d'un logement parisien situé sous les toits. Et effectivement, les personnes âgées, les jeunes et les résidents de quartiers populaires, davantage concernés par les îlots de chaleur urbains dont le béton stocke la chaleur la journée et la rediffuse la nuit, on connaît bien ça en région parisienne, sont par ailleurs désignés comme les personnes les plus vulnérables face à cette précarité énergétique d'été encore peu prise en compte dans le confort de vie des habitants. La sensation de froid l'hiver est mieux documentée, concède aux médias 20 minutes Manuel Domergue, qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Les deux phénomènes partagent pourtant les mêmes causes, manque d'isolation, absence de protection et de volets. Pour lutter contre l'inhabitabilité liée au pic de chaleur, la Fondation Abbé Pierre appelle ainsi à repenser l'organisation des villes et du bâti au travers d'une vingtaine de mesures. Parmi les solutions proposées, la végétalisation des agglomérations et des logements permettrait à elle seule de gagner jusqu'à 10 degrés par endroit. L'organisme insiste également sur la prise en considération du confort d'été dans les aides à la rénovation thermique et dans l'évaluation du diagnostic de performance énergétique. Au niveau des logements, la Fondation demande la mise en place d'un grand plan volet. Ce dernier devrait permettre à tout le monde de s'équiper avec une prise en charge des frais pour les ménages les plus modestes, tout en simplifiant les règles dans les zones soumises à l'appréciation des architectes des bâtiments de France, qui s'opposent parfois à la pose de volets pour des raisons esthétiques, précise Manuel Domergue. Dans son rapport, la Fondation indique en effet que la simple pose de protection solaire peut entraîner une baisse de 2 à 5 degrés. Autant de mesures qui devraient permettre de réduire l'usage de la climatisation peu économique et polluante. Et malheureusement, cet usage prend de l'ampleur dans l'Hexagone, puisqu'en 2020, un quart de la population en était équipée. Cette même année, les climatiseurs étaient responsables d'un peu moins de 5% des émissions de CO2 produites par le secteur du bâtiment. Les climatisations peuvent déclencher une consommation d'énergie importante et aggraver le stress thermique extérieur, expliquent en effet les auteurs d'une étude publiée par Environmental Research Letters, rejetant des fluides frigorigènes qui, une fois dans l'atmosphère, ont un fort pouvoir réchauffant. Cette solution constitue ainsi une forme de maladaptation qu'il faudrait mieux encadrer selon la Fondation Abbé Pierre. Et puis alors, puisque on aborde le contexte aussi et des orientations sur ces sujets, bien le réseau Action Climat France revient sur les premières orientations présentées sur la planification écologique et nous donne son avis. Et son avis, c'est que les objectifs sont encore insuffisants et que de nouvelles mesures sont attendues. Donc le 5 juillet devrait annoncer, donc c'est dans ma mercredi, devrait annoncer les orientations en matière de planification écologique et énergétique. Et en vue de ces annonces, le réseau Action Climat donc a décrypté un peu c'est tous les sujets et les trajectoires et les leviers envisagés. Donc en complément des premières orientations présentées par le secrétaire général à la planification écologique en mai au Conseil national de la transition écologique, ça fait beaucoup de sigles, donc il y aura cette annonce qui sera faite le 5 juillet et concrètement donc il devrait être soumis à la consultation la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale pour la biodiversité en préparation du projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat. Alors, si le SGPE a permis un travail interministériel nécessaire pour une planification robuste, et si l'ambition du gouvernement s'est efforcée par rapport au précédent budget carbone, elle reste insuffisante pour rester sous la barre des 1,5% de réchauffement global. Il manque 50% des mesures qui permettraient d'atteindre les objectifs proposés, déjà eux-mêmes insuffisants, donc un peu dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Et de plus, ces orientations ne sont crédibles que si elles sont accompagnées d'une planification des financements pluriannuels qui soit en cohérence, notamment sur la réduction et la fin des dépenses néfastes au climat et à la biodiversité, mais aussi sur les mesures d'accompagnement des acteurs et les ménages impactés que cela va nécessiter. Plusieurs pistes peuvent pourtant améliorer les orientations qui vont être annoncées le 5 juillet. Donc le réseau Action Climat cite le levier de la sobriété, encore largement sous-utilisé alors qu'il est le plus efficace, rapidement et le moins coûteux, on en parlait tout à l'heure, hein. La prise en compte du pouvoir d'achat des ménages et des plus précaires, par exemple pour les logements, le gouvernement mise sur le remplacement des chaudières au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur sans une rénovation énergétique suffisante. Les factures d'énergie resteront élevées et la précarité énergétique pèsera à peine. Et puis, autre piste, l'anticipation des suppressions d'emplois avec la création de dispositifs d'accompagnement des reconversions professionnelles vers les nouveaux emplois créés. Enfin, nous dit le réseau Action Climat France, il est nécessaire d'engager un vrai dialogue avec l'ensemble des acteurs impactés, notamment dans les territoires, pour définir les modalités de mise en œuvre au plus près du terrain. Une simple consultation sur des documents techniques ne pourra répondre seule à cet enjeu qui doit engager toute la société. Donc on le voit, il reste évidemment beaucoup à faire. On a plutôt une concertation alibi sur ces questions. Encore une fois, une orientation par en haut. Et on voit malheureusement que ça ne donne pas de résultats. Alors, sur le terrain de l'énergie, les énergies renouvelables, il y a un recours qui a été déposé devant le Conseil d'État, puisque en 2020, la France a été le seul pays de l'Union européenne à ne pas remplir les objectifs qu'elle s'était fixés. Les énergies renouvelables ne représentaient que 19% de sa consommation énergétique finale brute, au lieu des 23% prévus. En 2022, le chiffre atteignait seulement 20,7%, ce qui a conduit Énergie Renouvelable pour tous, un collectif de scientifiques et de juristes, à saisir la justice. Pour l'instant, nous n'y sommes pas du tout, a déclaré au journal Le Monde Corinne Lepage, qui est avocate de l'association. Par cette action, nous demandons au Conseil d'État d'enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour parvenir à ses objectifs. Surtout que l'Union européenne vient d'augmenter ses ambitions. Au lieu d'un objectif de 27% de part de renouvelables dans la consommation d'énergie en 2030, elle compte désormais atteindre un taux de 42,5%. Autant dire que la France est à la traîne. Le gouvernement prépare actuellement une loi de programmation sur l'énergie et le climat qui devrait être discuté au Parlement cet automne, ce nouveau recours en justice est donc une manière de mettre la pression sur l'exécutif et les parlementaires. En 2022, la France a dû payer 500 millions d'euros pour ne pas avoir fait son développement des énergies renouvelables, avait déclaré la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher devant l'Assemblée nationale. En effet, lorsqu'un pays de l'Union européenne ne remplit pas ses objectifs énergétiques, il peut acheter des crédits manquants à d'autres États qui, eux, ont dépassé leur but. Je voulais faire l'écho avec la relève et la peste dont on parlait tout à l'heure, dans un article de Maïté Debove du 29 juin. D'une compagnie minière française qui menace la vie d'un peuple autochtone pour produire les batteries de voitures électriques, qui nous permet de mesurer un peu l'impact de ce développement, puisqu'au nord de l'Indonésie, sur l'île d'Halmahera, un vaste projet d'exploitation de nickel est mené par l'entreprise Weda Bay Nickel, donc WBN, l'entreprise qui se présente comme éthique, engagée en faveur du respect et de la protection de l'environnement et prenant en compte les impacts sociaux de sa présence. Mais 300 à 500 membres du peuple autochtone de la région, vivant jusqu'alors sans contact avec le monde extérieur, n'ont pas donné leur accord pour cette exploitation et l'extraction du minerai est très toxique. L'entreprise WBN est dirigée par un partenariat entre l'entreprise chinoise Tsingshan et Eramet, une entreprise française. Cette dernière est responsable de l'exploitation minière elle-même. En 2006, Eramet a acquis les droits d'exploitation d'un énorme gisement de nickel en Indonésie. En 2019, l'entreprise WBN commence son exploitation minière. Des images satellites prises en 2006 et 2022 montrent l'évolution des dégâts de l'exploitation sur la forêt. Le capital d'Eramet, basé à Paris, est détenu à hauteur de 27% par l'État français qui se retrouve par association impliqué dans ses activités dévastatrices. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de l'Indonésie visant à faire du pays un important producteur de batteries pour voitures électriques grâce à l'extraction et la fusion de nickel et d'autres minéraux. Un plan dans lequel des entreprises internationales telles que Tesla investissent déjà des milliards de dollars, explique Survival International. Pour le gouvernement indonésien, les Ongana Manyava est un peuple primitif qu'il faut intégrer dans la société. Ce manque de considération se construit sur un profond racisme qui a des conséquences désastreuses. Ce contact forcé a notamment causé de terribles épidémies à la fin des années 70 et au début des années 90. Les plus traumatisés par les tentatives de sédentarisation forcée du gouvernement ont fui dans leurs forêts. La population des Ongana Manyawa, dont le nom signifie « peuple de la forêt », est l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs nomades d'Indonésie. Elle est estimée à environ 3000 personnes et 3 à 500 d'entre eux vivent aujourd'hui sans contact avec le monde extérieur dans les forêts de l'intérieur de l'île d'Halmahera. De leur naissance jusqu'à leur mort, les Ongana Manyawa enracinent leur vie entière dans la forêt. À la naissance d'un enfant, la famille plante un arbre en remerciement et enterre le cordon ombilical à son pied. L'arbre grandit avec l'enfant, marquant son âge. À la fin de leur vie, leurs corps sont placés dans les arbres d'une zone spéciale de la forêt réservée aux esprits, précise Survival International. Vivant en symbiose avec leur environnement, les Ongana Manyawa sont nomades et vivent principalement de la chasse et de la cueillette. Ils s'installent dans une partie de la forêt avant de s'en éloigner et de la laisser se régénérer. Grâce à leur présence ancestrale, ils détiennent des connaissances incroyablement précises de la forêt tropicale d'Halmahera et de ses plantes comestibles et médicinales. Depuis le début de l'exploitation, de vastes zones de la forêt tropicale, que les Ongana Manyawa considèrent comme leur foyer, ont été détruites. Les sagoutiers, des plantes de la famille des palmiers qui constituent leur principale source d'hydrate de carbone, sont particulièrement menacés par la déforestation due à l'exploitation minière. L'entreprise prévoit d'intensifier l'exploitation minière à un rythme plusieurs fois supérieur au rythme actuel et de l'exploiter pendant une période qui pourrait aller jusqu'à 50 ans. Une aînée Ongana Manyawa, récemment contactée, a expliqué dans un entretien auprès de Survival International que le bambou qui pousse près de chez elle lui appartient puisque c'est elle qui l'a planté. « Je n'ai pas donné mon accord pour qu'il le prenne, c'est notre forêt depuis des temps immémoriaux, c'est notre maison, nous avons toujours vécu ici. » Elle ajoute « C'est là, les camps de compagnies minières, que se trouvaient nos jardins. C'est là qu'ils ont délibérément pris nos terres, la zone qui a été déboisée, là où nous avons été expulsés, est également notre terre que nous avons toujours occupée. Allez donc leur dire que nous ne voulons pas céder notre forêt. » Cette exploitation minière est contraire au droit international car les individus non contactés ne peuvent pas donner leur consentement libre, informé et préalable à l'exploitation de leurs terres. Selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le consentement des individus concernés est requis pour tous les développements sur les territoires autochtones. La directrice de Survival International France, Fior Longo, a déclaré qu'il s'agit là d'un autre exemple flagrant des fausses solutions vertes mises en place par les entreprises et les gouvernements. À nouveau, des peuples autochtones, pourtant parmi les moins responsables de la crise climatique, paient le prix des fausses solutions vertes mises en avant par les pays du Nord, cette fois pour que des entreprises puissent vendre à leurs clients des voitures neutres en carbone. Le nickel extrait en Indonésie doit servir en grande partie à la fabrication de batteries de voitures électriques, mais l'extraction n'a rien d'écologique. L'Agence internationale de l'énergie estime que 19 tonnes de CO2 sont émises pour chaque tonne de nickel fondu. L'exploitation pollue ainsi l'air et endommage les rivières. L'ONG Survival International plaide pour la suspension de toute exploitation minière d'Eramet et des autres sociétés sur les terres des peuples autochtones non contactés. Pour l'organisation, le gouvernement indonésien doit également établir une zone interdite d'accès afin de protéger les Ongana Manyawa non contactés et leur territoire. Voilà, il m'a semblé intéressant d'illustrer justement l'impact de cette consommation et de cette soi-disant solution du développement de la voiture électrique. C'est l'heure de la fin de l'émission. Nous allons nous quitter avec bien une musique qui devrait décaper un peu. On se retrouve au mois d'août, le premier lundi du mois d'août, je crois que c'est le lundi 7 août, pour l'émission Les Mangeterres qui aura lieu à 18h comme d'habitude. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Une concierge lui met tout le faux quartier. Le président fêlé entame l'Elysée. Trois secrétaires en chaleur cassent leur directeur. Une tribu de bonne sœur incendie le Sacré-Cœur. Chimpanzés dynamite de le zoo. Des rastas éclatés s'échouent dans le ghetto. Les feux dans la cité boîte pour Gironimo. Des soldats cannibales rentissent en général. 300 patrons qui crachent pour sauter la baraque. Et un vieux bon chinois se pétrole le minois. Le frottis la fillette qui n'a plus d'allumer. Des jeunes chômeurs s'adonnent au cocktail Molotov. Des Iraniens enflamment le corps de l'oncle Sam. Des sauteurs s'abattent au fort d'un grand feu de choc. Un tank de pyromane se croit au paradis. Les pompiers en hommage, c'est la grève aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu.
est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold. Édito du lundi 3 juillet 2023 du Monde Merveilleux d'après. Plus qu'un bilan des manifs de mars 2023 contre la réforme de retraite, nous commenterons les motivations, les acteurs, les tactiques et les résultats de ces contestations qui vont bien au-delà de la simple revendication conjoncturelle et qui nous paraissent même être la continuité d'un mouvement social multiforme initié par les gilets jaunes, passant par les soulèvements de la terre et les émeutes actuelles dans les quartiers de relégation. Répression contre la liberté d'expression, abus de pouvoir social sous couvert de démocratisme, autoritarisme politique et manipulation fascisante. Nous évoluons dans une société absurde où la division des uns contre les autres doivent nous garantir la paix sociale et le bien commun. Justement, il y a 140 ans, naissait Franz Kafka. L'écrivain austro-hongrois, connu pour son roman Le Procès et les nouvelles La colonie pénitentiaire, tout un programme, dont l'œuvre se caractérise par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, et que la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu, sur Wikipédia. Alors comment sortir de cet imbroglio conceptuel, vous le saurez à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail. Et tout de suite, sans haine ni passion, nous enchaînons avec notre chronique ô combien collective, l'almanach culturel de l'actualité brûlante.
Déguisé en flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue, elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs, chères auditrices, notre chronique ponctuelle à CAB doit prendre fin avec l'arrêt des manifs pour la